Voici une question qui est d'un grand sérieux. Vivons-nous présentement dans des temps d'apostasie? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous fera réfléchir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je veux remercier tous nos auditeurs fidèles qui écoutent nos émissions chaque jour et ceux qui nous appellent pour nous encourager et pour nous faire part de leurs besoins. C'est avec joie aujourd'hui que je pose quelques questions au grand livre de Dieu, sachant que Dieu nous répondra pour notre bien. Voici nos questions. Est-ce que nos rituels religieux et nos beaux édifices d'église suffisent pour que nos vies soient agréables à Dieu? Qu'est-ce que la désobéissance envers Dieu entraîne? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ doit porter la bonne nouvelle dans le monde entier? Sommes-nous présentement dans des temps d'apostasie, d'abandon de la foi? Quelle est la meilleure image du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu respecte toutes ses promesses? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner les vérités de la Bible en réponse à nos questions. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Demandons-lui de nous disposer à recevoir cet enseignement avec des cœurs obéissants. Prions. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. Nos cœurs sont enclins à penser à toutes sortes de choses autres que ce que tu veux leur dire. Alors dispose-nous, aide-nous à nous concentrer sur tout ce que tu vas nous enseigner et donne-nous des cœurs obéissants qu'on puisse s'empresser d'obéir à tout ce que tu vas nous commander par ta parole aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné le début de la réponse que fit Dieu à la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Nous nous sommes particulièrement arrêtés sur le verset 14 de 2 Chroniques chapitre 7. Ce verset énumérait quatre conditions que devait satisfaire le peuple de Dieu. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Les conditions satisfaites, Dieu s'engageait à exaucer les prières du peuple, pardonner ses péchés et guérir le pays. Relisons les versets 13 à 15 pour nous rafraîchir la mémoire. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Rappelons que nous avons dit qu'il est nécessaire de considérer le contexte d'un tel verset pour en comprendre tout le sens. Ces versets s'adressent à la nation d'Israël. Par contre, nous pouvons en tirer un enseignement pour nous et en faire une application utile dans notre situation contemporaine. Nous voyons alors que Dieu nous appelle à satisfaire les conditions du verset, et il s'engage à entendre nos prières et à pardonner nos péchés. Mais il ne nous promet pas de guérir notre pays, ni de bénir matériellement qui que ce soit. En Jésus-Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. De plus, si nous voulions nous approprier la promesse de guérir le pays au verset 14, il faut aussi considérer le verset 15, qui dit que ce sont les prières faites au temple qui seront répondues. Le temple n'existe plus. Alors, comment y aller pour prier? Nous ne pouvons réclamer pour nous une promesse faite à la nation d'Israël. Versets 16 à 18. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Dieu a promis qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône d'Israël. Aucun roi sur terre aujourd'hui ne peut prétendre descendre de David. Mais il y en a un qui est assis à la droite de Dieu qui lui a dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le psaume 110, verset 1er. Et, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 et 13, eh bien, ce verset s'applique au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le descendant de David. Dieu ne se contente pas d'une forme de religion, il veut notre cœur et notre obéissance. Versets 19 et 20. Mais, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Cela est certainement vrai aujourd'hui. C'est une mosquée qui est construite là où se trouvait le temple. Verset 21. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» C'était l'endroit choisi par Dieu pour ériger le temple que David avait à cœur de lui construire. Nos rituels religieux et nos beaux bâtiments d'église n'impressionnent pas Dieu, s'il n'y a pas d'amour pour lui et les frères, ni de justice et de miséricorde chez le peuple qui se réclame de son nom. Ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis dans le passé ou parce que nous avons un poste dans son Église qu'il acceptera que nous tolérions le péché dans notre cœur et au sein de son Église. Verset 22. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Le temple n'existe plus. Dieu avait averti son peuple et il a tenu parole. Maintenant nous passons au chapitre 8, verset 1er. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, Salomon prit la moitié de son règne pour accomplir ses projets laborieux. Dieu le nota. Versets 2 et 3. Il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath, vers Tsoba, et s'en empara. Ce fut la seule bataille livrée par Salomon, et elle ne semble pas avoir été importante. Verset 9. Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Salomon plaça ses gens à la tête du peuple et laissa les travaux communs aux descendants des peuples qui possédaient le pays autrefois. Plusieurs avaient été épargnés au moment de la conquête. Verset 10. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de 250. La désobéissance envers Dieu entraîne des ennuis, chers amis. Voici une chose que fit Salomon qui lui attira des ennuis graves plus tard. Dieu l'a noté sans l'approuver ou la bénir. Il en prend note seulement. Verset 11. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Salomon n'installa pas la princesse égyptienne dans la maison et dans la cité de David. Il lui construisit un palais hors de la ville. C'est un détail intéressant, n'est-ce pas? Certains croient que Salomon a pris de nombreuses épouses pour des raisons politiques, une méthode utilisée par Salomon pour maintenir la paix. Je ne sais pas si cette théorie est entièrement vraie, mais il s'y trouve probablement une part de vérité. Quoi qu'il en soit, ce fut une désobéissance envers Dieu. Le reste du chapitre traite du temple et des holocaustes offerts par Salomon qui établit les Lévites et les sacrificateurs dans leurs fonctions. Nous passons au chapitre 9. C'est le dernier chapitre consacré au règne de Salomon. La construction du temple fut le plus grand accomplissement de Salomon, mais maintenant, nous allons voir qu'il a réussi autre chose. Israël fut un témoignage au monde entier. Nous verrons comment il accomplit tout cela. Israël, témoignage au monde entier. La méthode est très différente de celle de l'Église. Israël devait adorer Dieu et offrir des sacrifices à Jérusalem et inviter le monde à se joindre à la nation pour en faire autant. Par contre, l'Église devait commencer par Jérusalem pour se rendre aux extrémités de la terre. L'Église doit porter la bonne nouvelle dans le monde entier, alors qu'Israël devait inviter le monde à venir à Jérusalem pour entendre la révélation de Dieu au temple. En tant que nation, Israël devait témoigner du vrai Dieu vivant à un monde polythéiste, un monde qui adorait de nombreux dieux. En tant qu'individu, les membres de l'Église doivent témoigner de la résurrection et du Sauveur vivant à toutes les nations dans un monde d'athéisme. Israël s'est acquitté de sa mission jusqu'à un certain point. Ce que nous voyons par le nombre de païens qui vinrent à Jérusalem pour adorer Dieu et le connaître par les services du Temple. Le succès de l'Église se mesure par le nombre de nations et de tribus auxquelles elle apporte l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons tendance à minimiser le succès du témoignage d'Israël et à exagérer les succès de l'Église. Il n'est pas rare que nous recevions des rapports exagérés de différents champs missionnaires. Nous sommes dans une période d'apostasie aujourd'hui. De nombreux pasteurs et de nombreuses églises sont encore fidèles, mais ils savent que nous vivons dans des temps difficiles. Quoi qu'il y ait quelques prédicateurs et enseignants qui sont dans les tours d'ivoire de certaines institutions et qui croient que les choses vont bien, les chrétiens œuvrent dans le monde sachant que nous sommes dans des temps d'apostasie. Israël a réussi à témoigner au monde. Il ne faut pas seulement considérer son apostasie finale. La Bible nous donne deux exemples de païens qui vinrent à Jérusalem sous le règne de David et Salomon. Huram, roi de Tyr et Sidon, ainsi que la reine de Séba. Débutons notre lecture de 2 Chroniques chapitre 9, versets 1 et 2. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. Salomon lui expliqua la clé de son succès. Dieu lui avait donné la sagesse pour régner sur le peuple, et Israël pouvait rencontrer Dieu au temple, car il y manifestait sa présence. Versets 3 et 4. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 24, nous lisons. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. L'épisode de la reine de Séba qui est venue rencontrer Salomon à cause de sa sagesse est un exemple de cela. La nation d'Israël a réussi à témoigner au monde entier. Les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Cela réfère à l'Holocauste qu'il a offert à Dieu. Ce sacrifice était un symbole de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre expiatoire à la croix. Aucune autre nation n'avait un sacrifice comparable pour le péché. Ce sacrifice, qui illustrait Jésus-Christ, étonna la reine de Séba. David avait tellement écrit au sujet de Jésus-Christ que la reine n'a pas dû partir sans une explication au sujet de celui qui viendrait ôter les péchés du monde. Versets 5 et 6. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » La reine de Séba fut sauvée par la foi, comme nous le sommes tous. La reine de Séba n'a pas cru à tout ce qu'on disait, mais elle a eu suffisamment de foi pour entreprendre un long voyage difficile afin de voir par elle-même si Salomon était si sage. Elle a fait un long trajet afin d'entendre la sagesse de Salomon et savoir comment il approchait de son Dieu. Maintenant qu'elle a vu, voici sa réaction. Versets 7 et 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Cette femme loue Dieu. En parlant d'elle, le Seigneur Jésus a dit, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » Il y avait un endroit appelé Séba au sud-ouest de l'Arabie et un autre en Afrique. Puisque le Seigneur a dit qu'elle est venue des extrémités de la terre, il est probable qu'elle venait d'Afrique. L'entourage impressionnant qui l'accompagnait révélait la richesse et le luxe de l'Orient. Même les mages n'ont pas dû faire une aussi grande impression que cette reine. Elle est venue en grande pompe, comme tout monarque oriental. Elle semble avoir surtout été touchée par l'Holocauste, la meilleure image du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Israël a bien témoigné car elle a connu le vrai Dieu vivant de son existence. Nous devons tous proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, chers amis. Rappelez-vous la rencontre de Jésus avec la Samaritaine près d'un puits. Il lui dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean chapitre 4, verset 21. Au temps de Jésus, l'heure venait, mais aujourd'hui elle est venue. Nous devons proclamer l'Évangile aux extrémités de la terre. Cependant, sous le règne de Salomon, il fallait venir à Jérusalem pour y rencontrer le seul vrai Dieu. Versets 22 et 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Salomon rendit témoignage au monde entier. Cela fut connu de tous. Verset 25. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et 12000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem, près du roi. Ceci fut la faille dans le caractère de Salomon. La loi lui interdisait un aussi grand nombre de chevaux et aussi un aussi grand nombre d'épouses, mais il s'en procurait beaucoup des deux. Versets 26 à 28. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Salomon fut un des grands rois de ce monde. Versets 29 à 31. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Akija de Silo, et dans les révélations de Jéhido, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis, Salomon se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Dieu respecta la promesse faite à Salomon. Il lui donna la sagesse qu'il avait demandée, et il ajouta le reste, c'est-à-dire les richesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il fait encore des promesses à l'égard de son peuple qu'est l'Église. Dieu a promis de bénir tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, parlant de bénédiction spirituelle. Écoutez ce texte, tiré de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 11. « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Voici quelques bénédictions. Les avez-vous en votre possession? Est-ce que vous êtes capable maintenant de rendre grâce à Dieu, puisqu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints? À marcher dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Avez-vous cette délivrance en vous-même? Êtes-vous transporté maintenant dans le royaume de son Fils bien-aimé? Avez-vous le salut, la délivrance en vous? Le pardon de vos péchés. C'est ce que Dieu accomplit en la personne de Jésus, son Fils bien-aimé. Prendre part à cet héritage céleste. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se perdre. Un héritage qui demeure permanent dans chacun de ses croyants, de ceux et celles qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul. Il est la source même de toute bénédiction céleste, éternelle, spirituelle. C'est en Jésus que Dieu veut nous bénir. C'est en lui seul qu'il peut nous bénir. Ne passez pas à côté. Ouvrez votre cœur, accueillez-le, recevez-le comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence. Écoutez sa voix, il vous appelle. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quel tête-à-tête! Tant attendu de la part de Dieu. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu lui ouvres, que tu l'acceptes, que tu l'invoques en tant que Sauveur et Seigneur de ton existence, et par le feu même pourra partager avec toi cet héritage venant du Père, un héritage unique venant des lieux célestes, venant du ciel, venant du royaume de Dieu. Accueille-le chez toi, dans ta vie, et par le feu même, tu pourras, tout en recevant cette part venant de Dieu, la partager avec ceux de ton entourage. De partager les bienfaits, de partager les bénédictions spirituelles avec ceux de ton entourage. Tout cela se trouve dans le Fils, Jésus. Prochaine émission, 2 Chroniques, chapitre 10, verset 1er, à chapitre 12, verset 10.
Merci, Régent. Ça m'a toujours impressionné de voir la réaction de la reine de Séba devant la sagesse et les richesses de Salomon. Surtout dans les versets 5 et 6 que Régent nous a lus dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 9. Permettez-moi de les relire. « Or d'elle-même, la reine de Séba dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » J'aime bien appliquer ce texte à ma vie et à celle de mon Église. Les gens entendent parler de nous, parfois en bien, parfois en mal. C'est donc tellement important lorsqu'ils nous rencontrent individuellement ou quand ils visitent l'endroit où on se réunit, qu'ils puissent voir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, qu'ils puissent goûter à l'amour de Dieu à travers nos actions, à travers nos paroles et même nos regards. Si on leur dit que Dieu est amour, ils doivent pouvoir expérimenter cet amour en notre présence, n'est-ce pas? Quand les gens entendent dire qu'il y a de la joie parmi les enfants de Dieu, quand ils se réunissent pour chanter ses louanges, il est important que ce soit évident qu'il en est ainsi quand ils assistent à nos cultes d'adoration. Comme je l'ai déjà partagé avec vous, on a agrandi notre bâtiment d'église dernièrement, et au jour de la dédicace, le maire de notre canton, le député fédéral et le député provincial sont venus suite à notre invitation. Quelle joie ça a été pour nous de les entendre dire que nous étions une église vivante, une église joyeuse, qu'il faisait bon être dans ce lieu où nous étions réunis. Mes frères, mes sœurs, il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 1, que la réputation est préférable à de grandes richesses. Alors imaginons, si la reine de Séba a été épatée par les richesses de Salomon, à plus forte raison est-ce que les gens seront attirés à l'Église de Jésus-Christ si on a la réputation d'être des gens humbles, doux, pleins d'amour et de joie pour ceux qui nous entourent, remplis de cette joie qui loue Dieu, cette joie qui démontre qu'elle vient de Dieu, et qu'on puisse louer Dieu de tout notre cœur. Ça me fait penser au livre des Actes, au chapitre 2, les versets 46 et 47. Si nous vivons ça quotidiennement, les gens vont sûrement reconnaître qu'on est des fils et des filles de Dieu. Voici ce qui est écrit. « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Demandons ensemble à Dieu qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans nos églises. Prions. Oui, Seigneur, on aimerait, tous ensemble, que les gens voient que tu es vivant. On aimerait que tu ajoutes chaque jour à nos églises ceux que tu veux sauver. Aide-nous, Seigneur, à être des ambassadeurs de ton royaume, que les gens puissent voir ton amour, qu'ils puissent être attirés par toi seul. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne, et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.